Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. À la une, toujours ce trafic très perturbé, Gare de l'Est à Paris, au lendemain du sabotage visant la SNCF. Et à 6 jours maintenant d'une deuxième grande journée de mobilisation, certains craignent une radicalisation sur ce conflit autour de la réforme des retraites, bien qu'à ce stade, rien ne prouve que les événements sont bien liés. On y reviendra longuement dans cette édition. À suivre aussi le feu vert de l'Allemagne à l'envoi de chars Léopard en Ukraine. Ça y est, c'est officiel. Après l'énergie, l'eau, le gouvernement lance la chasse au gâchis et présente son nouveau plan de sobriété. Et puis, attention à vos données personnelles. Vous en laissez partout, souvent à votre insu. Les géants du net s'en régalent. L'UFC, que choisir? Elle s'en alerte et vous dira pourquoi vous devriez être plus vigilant dans une dizaine de minutes.
RTL, toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part dans la banlieue toulousaine. Rencontre avec David. Il est SDF, mais heureux, vous l'entendrez. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Anxiolytique, antidépresseur, pourquoi en sommes-nous si friands? Et comment en sortir? On fera le point. C'est aussi l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Avez-vous déjà pris des antidépresseurs? Enfin, on connaît les nominations. Ça y est, pour la 48e cérémonie des Césars. On vous dit tout dans LVT Midi, juste avant 13h. C'est évidemment du cinéma.
Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. J'ajoute le retour de Renaud hier soir à Avignon. Si vous étiez présent dans le public, appelez-nous au 3210 entre 13h et 14h30.
La météo aujourd'hui, c'est avec vous, Peggy Broche, et on en est ravis. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi?
Un peu comme hier, encore beaucoup de grisailles et du froid.
Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Toujours pas de retour à la normale aujourd'hui, Gare de l'Est à Paris, au lendemain du sabotage, cet incendie sur des câbles qui a paralysé le trafic hier. Vincent Serrano, vous êtes dans le hall de la gare, un hall anormalement calme ce mercredi, avec un TGV sur 3 seulement au départ.
Oui, Remiremont, 12h23, Luxembourg à 13h27, et puis plus rien sur les panneaux d'affichage de cette gare où vous ne croisez que les gilets rouges, les agents d'information, les gilets pare-balles des agents de sécurité SNCF. Les voyageurs sont peu nombreux et Pascal est loin d'être pressé. Elle est arrivée ici 3 heures avant le départ de son train.
Prendre le train pour Nancy. J'ai téléphoné, ils m'ont dit que pour l'instant, il n'est pas annulé. J'ai regardé sur une appli aussi, Gare et Connexion, il était bien en place. Maintenant, voilà, ils ne peuvent pas me certifier qu'il partira bien.
Votre prénom, madame ?
Christine.
Qu'est-ce que vous en pensez de cet incendie, ce sabotage d'après la SNCF ?
Je pense que ça doit être des gens qui devaient connaître quand même. Hein. Aller directement là où il vient.
Ouais, c'est une certitude maintenant pour les enquêteurs. Le ou les auteurs connaissaient très bien les lieux où se trouve le portillon pour accéder à la zone. Portillon retrouvé, la serrure ouverte, sans aucune trace d'effraction. Et puis surtout l'emplacement des 2 coffrets contenant les câbles électriques à incendier, dont un qu'ils arrivent à atteindre par un tunnel situé sous les voies. Tout cela de nuit. Pas d'indice retrouvé sur la zone. Une zone large qui complique l'enquête puisqu'il n'y avait pas de caméra sur le carrefour ferroviaire touché à Vers-sur-Marne.
Vincent Serrano, Gare de l'Est à Paris pour RTL. On reviendra à 12h40 sur cet acte de sabotage, sur l'enquête, les faits et les soupçons, justifiés ou pas d'ailleurs, qui pèsent sur les syndicats. Soupçons que le leader de la CGT juge d'ailleurs malsain.
À l'étranger, l'Allemagne donne son feu vert à la livraison de chars Léopard en Ukraine.
Oui, après des semaines d'atermoiement, la chancellerie allemande a confirmé cette décision il y a quelques minutes. Décision qui pourrait peut-être changer la donne en Ukraine, Brice Dugénie, car on ne parle pas là de quelques chars, mais bien d'une centaine au total.
Oui, parce que le Léopard, char de combat, a été produit en très grand nombre. Plus de 2000 ont été fabriqués par l'industrie allemande et vendus à une vingtaine de pays. Alors l'Allemagne va donc officialiser la livraison d'une compagnie. Une compagnie, c'est 14 chars. Olaf Scholz va l'annoncer devant le Parlement. Et cette annonce, elle va automatiquement autoriser les autres pays propriétaires du Léopard à les envoyer à l'Ukraine s'ils le souhaitent. On appelle ça réexporter. La Pologne, la Finlande, l'Espagne, le Portugal se sont déjà exprimés en faveur de ça. La Pologne a déjà annoncé l'envoi de 14 engins. Au final, avec tous ces pays, on parle peut-être d'une centaine de chars, voire plus. Mais on sait que Volodymyr Zelensky en demande 250. Alors, il n'en aura pas autant pour l'instant. Mais avec le Léopard 2, les Ukrainiens vont avoir pour la première fois un char lourd, mobile, moderne, et comme il a été produit, je vous le disais, à plus de 2000 exemplaires, les munitions, les pièces détachées vont être faciles à trouver. Mais attention, l'efficacité dépendra aussi de la capacité des Ukrainiens à assurer toute la logistique qui va derrière, c'est-à-dire les munitions, l'essence, les réparations. C'est de cette organisation que dépendra l'efficacité du Léopard sur le terrain ukrainien.
Brice Duchesny, spécialiste des questions militaires ici à RTL. L'armée ukrainienne reconnaît pour sa part ce matin avoir cédé aux Russes la ville de Soledar dans l'est du pays. Moscou avait déjà annoncé la prise de cette ville il y a 15 jours après des semaines de combats acharnés.
Après l'énergie, l'eau, le gouvernement veut inciter les Français à consommer moins.
Oui, après la sécheresse qui a frappé le pays cet été, il est temps de penser sobriété, explique l'exécutif et le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, qui présente aujourd'hui son plan pour réduire de manière globale notre consommation d'eau. Ça passe par les efforts de chacun d'entre nous, Pierre Herbulot, des efforts qu'on peut faire au quotidien, mais pas que.
Oui, parce que avant d'arriver dans nos cuisines et nos salles de bain, il y a déjà des pertes. 20% des tuyaux du réseau d'eau en France ont des fuites. Il faut le moderniser. Un plan est en cours avec des objectifs sous 3 ans. Et puis après l'utilisation dans le foyer, pareil. Seuls 77 des 33 000 stations de traitement des eaux usées sont équipées pour recycler complètement l'eau. Résultat, on ne réutilise qu'1% de tout ce qui part dans nos éviers. C'est 10 fois moins qu'en Italie et 20 fois moins qu'en Espagne, d'après le ministre de la Transition écologique. Après, c'est vrai qu'entre ces deux étapes, on a tous un rôle à jouer. 150 litres par personne et par jour, voilà ce que l'on consomme aujourd'hui en moyenne. On peut clairement faire mieux. La situation que l'on vit avec le gaz et l'électricité est une source d'inspiration pour le gouvernement. L'idée serait de créer un éco-watt de l'eau, un système d'alerte très local en cas de risque de sécheresse, avec des gestes simples à mettre en place en amont pour éviter de devoir limiter la consommation par la suite. Ça marche pour l'énergie puisque la consommation de gaz a baissé de 12% en décembre par rapport aux années précédentes. Seul point noir dans ce plan, rien sur l'agriculture, sujet hautement sensible. Premier consommateur d'eau en France, c'est près de 45% des ressources. L'objectif global de ce plan anti-sécheresse, c'est de réduire de 10% notre consommation d'ici la fin du quinquennat.
Merci Pierre Herbulot.
Bruno Martini, le président de la Ligue nationale de handball, mis en cause pour corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques.
Oui, l'ancien gardien de but des Bleus a été interpellé lundi, placé en garde à vue après la plainte de la famille d'un adolescent de 13 ans. Il devrait être présenté aujourd'hui à un magistrat avant une possible comparution pour reconnaissance préalable de culpabilité. On y revient dans le journal de 12h30. Du cinéma à présent, avec les nominations pour la 48e cérémonie des Césars, prévue le 24 février prochain, et deux films en tête après ces nominations. L'Innocent de Louis Garrel,
excellent film,
nommé 11 fois, enfin dans 11 catégories plutôt, et puis La Nuit du 12 de Dominique Moll avec 10 nominations. On revient sur tous les nommés dans LVT Midi avec Stéphane Boutsock juste avant 13h. La météo à présent, on vous retrouve comme promis Peggy Broche, un peu comme hier, hein, c'est gris et froid,
et c'est exactement ça. C'est vrai qu'on a un ciel bien gris, on a du mal à se débarrasser des grisailles qui concernent les trois quarts du pays jusqu'au sud-ouest cet après-midi. Allez, peut-être quelques petites éclaircies dans l'après-midi sur le sud-Bretagne, la pointe du Cotentin, éventuellement vers la pointe des Ardennes et sur le Jura. Et puis sinon, c'est vrai qu'on a, comme ce matin, un ciel un peu plus dégagé, en tout cas plus lumineux, même s'il est voilé entre les Pyrénées et le sud-est, sauf sur les Alpes frontalières avec l'Italie. Ça reste couvert avec encore quelques chutes de neige, et je rappelle que le risque d'avalanche est encore fort, donc prudence. C'est gris mais calme en Corse. On oublie les averses dans l'après-midi, mais il y a toujours du vent également près de la Méditerranée, et puis peut-être quelques flocons vers le massif central et un peu de bruine sur le Pays Basque. Les températures, vous l'avez dit Céline, encore froides. On est souvent sous les 5 degrés, 2 à Langres, 3 degrés à Paris et à Tours, 4 à Nevers et Lyon, 5 au Havre et à Nantes, 6 à Caen, 7 à Biarritz, 8 à Brest, 9 à Nîmes, et c'est plus doux près de la Méditerranée, 10 à Marseille, 12 à Bastia et 15 à Ajaccio.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
RTL Midi, un jour chez vous, chaque jour l'info plus près de vous. Où partons-nous ?
Aujourd'hui, on part à Tournefeuille, Pascal, dans la banlieue de Toulouse. Bonjour Patrick Hisson.
Bonjour Céline et Pascal.
Tournefeuille, où vous avez rencontré David, 53 ans. Il y a un an et demi, au retour d'une mission de travail, donc, il a retrouvé son appartement occupé, est allé vivre dans la rue. Il est donc aujourd'hui sans domicile fixe, Patrick, mais, et ça peut surprendre, il est heureux de l'être.
Oui, David apprécie d'abord sa liberté, celle d'organiser comme il le souhaite son emploi du temps et de s'installer où il le désire, comme ici en bordure d'un jardin public près de la rivière Le Touche et au milieu des arbres. C'est là qu'il a construit une cabane qui ressemble à un mini château digne d'un conte de fées. Tout est fabriqué en mousse récupérée et isolé pour faire face aux basses températures. Et cela fait le bonheur de tous les promeneurs.
Moi, je trouvais la démarche très jolie, magique. Moi. On espère qu'il va rester là et on le plaint.
Alors, David, vous avez entendu ce que disait madame. Elle vous plaint?
Non, moi, je plaindrais plutôt les gens qui ont la vie que j'avais avant, quoi, c'est-à-dire le boulot, le prix de l'essence, le prix de l'électricité. S'il y a des gens qui sont à plaindre aujourd'hui, c'est plus peut-être les boulangers qui triment comme des fous et qui se retrouvent à la fin du mois sans rien. Quoi. Surtout, j'ai une vie qui a aujourd'hui un sens.
Pour autant, David n'est pas inactif, bien au contraire, c'est ainsi qu'il anime gratuitement tous les dimanches et parfois le mercredi des ateliers pour enfants où il fabrique avec eux des figurines, des personnages en mousse aux allures de Pikachu.
Les enfants arrivent à faire l'équivalent parce qu'ils ne sont pas obligés d'écouter ce que je leur dis, parce que la première règle que je leur donne, c'est de faire ce qu'ils veulent, s'ils veulent faire ce qu'ils veulent. Mais après, s'ils ont envie d'apprendre et de faire des choses plus structurées, je leur donne quelques règles graphiques. Vous avez une grosse tête, un petit corps, les yeux au bas du visage, ça veut dire qu'ils font baisser et le nez et la bouche. Et en fait, notre cerveau traduit ça comme si c'était un bébé.
Ces figurines qu'il fabrique tous les jours lui procurent, lorsqu'il les vend en Toulouse, un petit budget qui permet de résoudre ses besoins, qui sont évidemment très limités.
Et cela suffit à occuper toutes ses journées ?
Écoutez, non, il profite aussi de la vie pour faire du sport, kayak et natation, visiter des expositions et surtout pour lire, une soif de lire qu'il a retrouvée.
Ne serait-ce que d'avoir le soir un bouquin entre les mains, c'est déjà beaucoup, quoi. Et que les enfants soient contents de repartir à leur petit bestiole, ça me suffit, quoi. La vie peut être simple. C'est pas parce qu'elle est simple qu'elle n'est pas intéressante, quoi. Mais aujourd'hui, je peux lire un livre par jour, de lire des auteurs auxquels je ne m'étais jamais confronté, comme Balzac, comme Houellebecq, même. Et moi, j'ai pas besoin d'être réinséré. Je fais partie de la société, j'y ai ma place. Je ne me pose pas de questions pauvres SDF et compagnie, quoi. Je suis SDF, mais cette vie me va.
Et vous savez quel est le grand projet de David ?
Écrire ?
Pas tout à fait. Écrire,
non,
peut-être
pas,
un
petit
peu, ça viendra. Eh bien, construire une nouvelle cabane au mois d'avril, un radeau, une maison flottante qu'il aimerait bien installer quelque part sur la Garonne.
Et ça, c'est pas mal aussi. Merci beaucoup, Patrick Hisson, à Tournefeuille, donc dans la banlieue toulousaine, pour RTL.
Dans un instant, les données personnelles, vous en semez partout sur Internet et ça peut vous coûter cher. On en parle tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Je ne suis pas une data, c'est le nom de la campagne lancée aujourd'hui par l'UFC Que Choisir qui alerte sur les données personnelles exploitées par les géants du web. Pour en parler avec nous, Raphaël Bartholomé, responsable du service juridique de l'UFC Que Choisir. Bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui lancez donc cette campagne, Je ne suis pas une data. Quand on parle de data, de données personnelles, on parle de quoi exactement ?
On parle de notre vie, hein, de nos vies, de tous les détails de nos vies, là où vous vous situez, où vous allez, vos habitudes en termes d'applications, de sites que vous consultez. Tout est enregistré, il faut en prendre conscience, tout est tracé, hein, nous sommes tracés, votre téléphone 360 fois par jour, hein, il va vous géolocaliser, même si vous ne l'utilisez pas. L'objectif de cette campagne, je suis pas une data.fr, c'est... On va vous montrer l'invisible. Vous allez découvrir tout ce qu'ils savent sur vous, le découvrir pour vous rappeler que vous pouvez réagir. Vous pouvez réagir, c'est vraiment ça. L'important, c'est une réalité, la collecte de données personnelles. C'est un aspirateur géant qui est allumé, mais cet aspirateur silencieux, on va vous le montrer.
Mais alors, en quoi ça pose vraiment problème ? Je veux dire, si j'ai rien à cacher, si tout ce que je fais est parfaitement légal, en quoi je suis pénalisée par le fait qu'on en sache autant sur moi ?
Alors, notre objectif principal, c'est d'alerter sur... que les consommateurs puissent en prendre conscience. On ne dit pas que c'est dangereux, chacun y verra un danger ou pas. Ce qu'on rappelle, c'est une réalité. Et on va vous la montrer, parce que ça ne pique pas, ça ne brûle pas la donnée personnelle. Ça ne se voit pas, c'est pas nécessairement dangereux. Néanmoins, le fait que les applications pour enfants traquent plus que les applications pour adultes, eh bien, il faut le savoir, dont acte. Est-ce que c'est dangereux ? C'est pas nécessairement normal, c'est pas nécessairement cohérent. L'objectif, c'est on vous montre, On vous propose de réagir parce que éventuellement on ne sait pas qu'on peut réagir. Vous pouvez réagir en trois clics.
Mais ce qui m'ennuie dans ce que vous dites, c'est que c'est pas, pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est pas très concret. Je voudrais vraiment des exemples. C'est-à-dire qu'évidemment, à chaque fois que je vais sur Internet, toutes mes recherches, elles sont en mémoire. Je demande un train pour partir dans une ville, c'est en mémoire. Je lis le site d'RTL, c'est en mémoire. Tout ça est en mémoire. Mais une fois que qu'on a dit ça, qui peut s'en servir et comment on peut s'en servir contre moi ? Moi, je m'en fiche qu'on sache que je regarde le site d'RTL à 6h le matin.
Alors, ici, vous allez... c'est très très bon exemple. Je regarde une vidéo coréenne, une fois sur Netflix, eh bien, on va vous enfermer, on va vous cataloguer, on va vous catégoriser. Parce que vous allez regarder toujours les mêmes informations, le même thème, vous ne verrez plus les autres informations. Vous n'aurez plus accès aux autres
Mais
vidéos.
Pourquoi vous dites ça? C'est ça que je ne comprends pas. Pardonnez-moi, je ne comprends pas concrètement ce que vous dites.
L'algorithme, c'est-à-dire que, ici, on appelle ça l'enfermement algorithmique. C'est-à-dire que les sites Internet, ils vont faire ce portrait robot sur vous. Vous allez consulter les informations sur le site RTL, très bien, une thématique particulière. Eh bien, on ne va vous proposer ensuite que les mêmes thématiques.
Qui me propose alors, c'est les algorithmes.
Mais les algorithmes sur mon ordinateur, Google, on ne me propose rien, moi, sur mon ordinateur.
Si. Quand vous allez chercher une thématique YouTube, si vous allez sur YouTube une fois, eh bien tout YouTube vous proposera toujours la même chose. Est-ce que c'est dangereux ou pas ? C'est pas à nous de le dire. C'est simplement en prendre conscience.
Est-ce que ça peut avoir un coût économique aussi ? Je veux dire par là que en connaissant nos centres d'intérêt, nos goûts, est-ce qu'on peut se retrouver à payer plus cher ?
Alors, on va payer plus cher si vous avez un vos vacances seront potentiellement plus chères si vous consultez le site de l'agence avec un ordinateur avec une pomme qu'un ordinateur sans la pomme. Ça va être plus cher parce que ça, c'est une donnée qui est collectée. Ce sont toutes les traces que l'on laisse sur Google. Tapez votre nom sur Google. On croit que c'est une fatalité d'avoir toutes les infos, que ces infos apparaissent. Un utilisateur sur deux des réseaux sociaux regrette d'avoir partagé des informations et ces informations qui persistent. Ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que oui, ces informations, elles sont existantes, elles sont là, mais vous pouvez réagir sans aucun problème et obtenir leur effacement. Le fait que Netflix détienne toutes les informations depuis 20 ans de ce que vous regardez, en tant que tel, c'est pas nécessairement dangereux, mais est-ce que ça a une utilité ? Si demain il y a des failles de sécurité, parce qu'il y en a tout le temps des failles de sécurité, et c'est là où le bas blesse, il y a des failles de sécurité, eh bien vous allez être victime de phishing et de spam, parce que tout simplement, les données collectées n'étaient pas sécurisées, et c'est le début de
en fait, ce que vous appelez parfois enfermement, c'est qu'on nous propose aussi des choses qui nous intéressent peut-être plus. Pourquoi pas. Mais bon, c'est intéressant d'avoir votre avis et d'avoir fait ce focus avec vous. Merci à monsieur Raphaël Bartholomé. Vous êtes responsable du service juridique de l'USC Que Choisir. Et c'est un sujet qui est évidemment intéressant à développer. Dans un instant, RTL Midi, votre vie. Anxiolytique, antidépresseur. Le meilleur antidépresseur, c'est d'écouter RTL de 6h du matin jusqu'à 23h le soir.
Et ça, c'est sans modération.
Et plus, c'est affinité. Les Français en sont friands. Trop peut-être d'antidépresseurs. On en parle tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi, votre vie.
Votre vie, effectivement, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui...
Une rose pour la vie, une rouge pour l'amour, une noire pour la nuit et une bleue pour le jour, une jaune pour respirer.
Jean-Jacques Goldman, Janine, médicament blues, à chacun sa couleur pour soigner ses maux, anxiolytiques, antidépresseurs, les Français en sont très friands. Et pour en parler avec nous, Florian Ferreri, psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de ces questions de dépression, d'anxiété et donc de leur corollaire, des médicaments qu'on utilise pour les traiter. D'abord, il ne faut pas confondre antidépresseurs et psychotropes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre les deux ?
Un psychotrope, c'est l'ensemble des traitements qui ont une action sur le cerveau. Les antidépresseurs sont des médicaments qui sont utilisés principalement pour la dépression, mais aussi pour les troubles anxieux. Sur le long cours, les anxiolytiques, c'est pour l'anxiété. en général l'anxiété ponctuelle, et les somnifères ou les hypnotiques, c'est pour les troubles du sommeil. Et enfin, les régulateurs de l'humeur, ça c'est pour les personnes qui ont des fluctuations du moral, soit très basses, soit très hausses, notamment les personnes qui souffrent de troubles bipolaires.
On dit souvent que les Français sont des champions dans la consommation de ces médicaments. Est-ce que c'est toujours vrai et comment on peut expliquer ça ?
Alors c'est moins vrai qu'à une certaine époque, les Français consomment des psychotropes. Alors il y a cette, dit comme ça, on a l'impression que c'est négatif et que c'est trop. Alors c'est pas forcément trop, c'est-à-dire que c'est aussi le reflet de l'accès aux soins, de l'accès à des thérapeutes qui savent prescrire. Mais c'est vrai qu'aussi, dans certains cas, ce sont des prescriptions qui sont pas forcément adaptées, soit prescrites sur des durées trop prolongées, soit pour des troubles qui sont pas avérés. Et à l'inverse, on a près de 50% des sujets dépressifs, donc qui relèveraient d'un traitement antidépresseur, qui n'ont pas les bons traitements au bon moment et sur la bonne durée. Donc on voit que c'est un sujet assez complexe, cette question des traitements. Mais encore une fois, quand il y a des indications, quand il y a une indication et que la prescription est adaptée, il y a un bénéfice à prendre ces traitements-là.
Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a une propension à trop prescrire ?
Ça peut arriver. Alors il y a une propension d'une part à être capable de mieux s'observer, à mieux conseiller, à mieux repérer les difficultés. Donc, quand on regarde les difficultés...
Est-ce qu'on peut s'en sortir tout seul ? C'est ça, ma question. Est-ce que parfois, on va prendre un médicament alors que soi-même, on pourrait relever la tête sans cela ?
Alors, seul, c'est rarement le cas, mais en tout cas, sans médicaments, avec l'aide de l'entourage, de son environnement, des interactions sociales, oui, heureusement, dans la grande majorité des cas, l'anxiété, elle est ponctuelle, l'épuisement, il est ponctuel et conjoncturel, et on arrive à s'en sortir parce qu'on trouve des moyens de se projeter positivement dans l'avenir. Mais dans certains cas, c'est profond, c'est durable, et là, il faut une aide extérieure, pas forcément médicamenteuse, mais une aide extérieure. Et cette aide extérieure, elle peut être de l'ordre du soutien psychologique et des fois de médicaments, voire des deux.
Vous disiez, il y a parfois des problèmes dans la durée de la prescription de ces médicaments. C'est quoi la durée normale, en tout cas celle qu'il ne faudrait pas dépasser pour ne pas avoir de risque pour la santé ?
Alors si on parle des anxiolytiques, donc pour l'anxiété ponctuelle, on est sur des durées qui doivent être courtes, c'est-à-dire de 1 à 3 mois. On sait qu'il y a beaucoup de Français qui prennent des anxiolytiques de façon plus prolongée que ça. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter brutalement ces traitements si on les a depuis plus de 3 mois. Il faut en parler à son médecin et éventuellement essayer de les diminuer progressivement. Pour les antidépresseurs, la question est un petit peu différente et ça dépend de l'indication. Si on est sur un premier ou un deuxième épisode dépressif, on va prescrire entre 9 mois et 1 an, donc c'est fait pour être pris sur le long cours. Si on a fait plus de 3 dépressions, on peut le prendre sur parfois des années. Et quand on le prend pour l'anxiété, ça peut être quelque chose de chronique, on n'a pas forcément de date de fin, c'est-à-dire tant que c'est utile au sujet.
Et il n'y a pas un risque de dépendance avec ces médicaments-là ?
Alors là aussi, il peut y avoir une confusion. Donc il y a un risque de dépendance avec les anxiolytiques et les somnifères. Et le risque, il est important, c'est-à-dire que l'organisme va développer une tolérance, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre plus pour avoir le même effet. Et puis enfin, avoir une dépendance, c'est-à-dire que quand on va arrêter, on va se sentir très mal. Pour les antidépresseurs, on n'est pas sur ces mécanismes-là. Il n'y a pas de dépendance aux antidépresseurs, il n'y a pas de toxicomanie aux antidépresseurs. Par contre, il y a des modalités d'arrêt qui doivent être discutées avec le médecin. C'est-à-dire, plus on a un traitement longtemps, plus il faut être progressif dans l'arrêt du traitement.
Est-ce qu'on a un pourcentage de Français qui sont sous antidépresseurs ?
Alors, sous antidépresseurs, là, je n'ai pas révisé les chiffres, mais en tout cas, il y a 15 à 20% des Français qui prennent ou qui ont pris des psychotropes. Donc, ça fait beaucoup de personnes.
Qui sont en train de nous écouter en ce moment, il y a 15 ou 20% des auditeurs qui peut-être sont sous anxiolytiques ou antidépresseurs.
Tout à fait. C'est beaucoup, mais peut-être.
Plutôt des hommes, plutôt des femmes ?
Alors, peut-être à juste titre. Hein, encore
plutôt
une fois,
des hommes, plutôt des femmes ?
Plutôt des femmes, parce que la dépression et les troubles anxieux, il y a une prévalence plus importante des femmes. Donc, effectivement, elles bénéficient plus de ces prises en charge.
Merci beaucoup.
Il est 12h27.
Merci, Florian Ferreri.
Merci beaucoup. L'info revient dans une seconde.
L'actualité vous concerne.
Sur RTL, venez en débattre au 3210.
50 centimes la minute. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi,
le 12h30,
Céline Landreau et Pascal Praud.
Céline Landreau, le moment de la grande édition.
Comment rendre la réforme des retraites acceptable aux yeux des Français? C'est le grand sujet pour la majorité et pour ces députés qui cherchent à amender le texte pour mieux le défendre dans l'hémicycle. Et cela alors que la deuxième grande journée de mobilisation se prépare. Ce sera mardi prochain, le 31 janvier. Et que l'on redoute une certaine radicalisation du conflit avec en toile de fond le sabotage à la SNCF hier. Bien qu'aucun lien n'ait été établi à ce stade par les enquêteurs. On y reviendra longuement après ce journal. Dans cette édition également, une gloire du handball français, Bruno Martini, mis en cause pour corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques. La guerre en Ukraine et l'Allemagne qui autorise, ça y est, le feu vert est officiel, l'envoi de chars Léopard sur le terrain. Le chômage qui baisse dans le pays au quatrième trimestre. Et puis désormais, le loyer payable dans vos bureaux de tabac. C'est une nouveauté depuis ce matin. Jusque-là, vous pouviez régler les amendes, les factures de cantine ou les impôts au comptoir. C'est désormais aussi le cas pour les loyers. Arnaud Touche vous dira tout. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture cinéma. On parlera des Césars. La cérémonie aura lieu le 24 février. Et Stéphane Boutsock viendra nous parler des nominations qui ont été annoncées ce matin. Enfin, la question du jour sur notre site rtl.fr. On vient d'en parler il y a quelques instants. Les anxiolytiques, les antidépresseurs, les Français en consomment beaucoup. Et vous, en avez-vous déjà pris? Répondez-nous sur notre site. À tout de suite.
Je demande à nouveau à ceux qui étaient hier au concert de Renaud d'appeler le 3210 pour nous dire comment c'était. Et puis, si vous préparez vos vacances du mois de février, est-ce que vous craignez des grèves? On en parlera avec les auditeurs, bien sûr, de 13h à 14h30, 3210.
Des vacances avec quelle météo? Ça, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais déjà
c'est
un
le 4
indice.
Février, la première zone.
Oui, mais avec Peggy, on va d'abord parler de cet après-midi,
aujourd'hui,
Pascal.
Oui, ça sera déjà pas mal. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça va rester bien gris. La grisaille aura du mal à se dissiper et toujours des températures hivernales.
Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
C'est une gloire du hand français. Bruno Martini, ancien gardien des Bleus, aujourd'hui président de la Ligue nationale, est mis en cause pour corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques. Il a été interpellé et placé en garde à vue lundi. Bonjour Thomas Proto.
Bonjour.
Tout cela fait suite à la plainte de la famille d'un adolescent de 13 ans.
Oui, le double champion du monde a reconnu avoir eu des conversations en ligne avec le jeune homme. Conversations de nature sexuelle et ce pendant plusieurs semaines. D'après nos informations, lors de sa garde à vue à la brigade des mineurs, Bruno Martini a assuré que l'adolescent lui paraissait plus âgé sur ses photos, sur les réseaux sociaux. Mais il a aussi admis sa jeunesse évidente. Bruno Martini, lui, on le rappelle, est âgé de 56 ans. C'est la mère du jeune homme qui a réalisé ce qui était en train de se produire et qui a porté plainte. Selon le parquet de Paris, l'ancien gardien des Barjots reconnaît ses torts. On saura tout à l'heure s'il accepte d'être jugé en CRPC, c'est-à-dire une comparution pour reconnaissance préalable de culpabilité, procédure rapide devant le procureur, suivie d'une courte audience publique de validation. Une seule victime a été identifiée.
Merci beaucoup à Thomas Proto, chef du service police justice à RTL.
La France se félicite du feu vert allemand pour la livraison de chars Léopard à l'Ukraine.
Un feu vert officiellement donné à la mi-journée par la chancellerie allemande après des semaines d'atermoiement. Une décision qui, selon Paris, prolonge et amplifie le soutien déjà engagé avec la livraison de blindés plus légers sur le terrain.
RTL Midi. La réforme des retraites et la majorité qui cherche à amender le texte avant son arrivée dans l'hémicycle.
Oui, il sera en effet examiné en séance à partir du 6 février. Mais sur quelle base ces jours-ci, Thomas Després, on rivalise d'imagination chez les marcheurs pour la rendre plus acceptable aux yeux des Français?
Oui, et très clairement, chacun des trois groupes de la majorité y va de sa proposition. Ce matin, le patron du Modem, François Bayrou, le disait devant la presse, il faut proposer de meilleurs équilibres, en ligne de mire notamment la situation des femmes défavorisées avec cette réforme. Parmi les mesures portées par les députés de la majorité, certains voudraient donc leur accorder des trimestres supplémentaires. Autre piste d'amélioration sur les carrières longues. Au gouvernement, on s'attend à ce que les députés veuillent étoffer les cas particuliers et influer sur le volet social de la réforme, en prenant en compte notamment plus de critères dans l'attribution de trimestres, en cas d'engagement associatif, de mandat local ou encore la possibilité de racheter des trimestres de stage ou d'études. Bref, de nombreuses pistes, mais un conseiller de l'exécutif le rappelle ce matin, les trimestres, c'est pas gratuit et hors de question pour le gouvernement que l'économie générale de la réforme soit modifiée.
Thomas Després du service politique d'RTL.
La réforme des retraites et son corollaire, faire travailler davantage les seniors.
Alors forcément, c'est avec ce prisme que l'on a décortiqué les derniers chiffres du chômage publié aujourd'hui à midi. Chômage qui baisse, moins 3,6% sur le dernier trimestre pour la catégorie A. Et chez les plus de 50 ans, Marie Guerrier, eh ben ça baisse aussi.
Oui, une baisse du même ordre, moins 3,9% sur les trois derniers mois de l'année 2022 dans la catégorie A, c'est-à-dire celle des demandeurs d'emploi qui n'exercent aucune activité. La baisse est même de 8,9% sur un an. Des seniors qui ont donc retrouvé du travail. Mais en parallèle, on observe une hausse de 3,6% au dernier trimestre dans les catégories B et C, à savoir les demandeurs d'emploi qui exercent une activité réduite. Un contrat de quelques heures, de quelques jours par mois. C'est le système des vases communicants. Les plus de 50 ans qui ont retrouvé une activité le plus souvent ne travaillent pas à temps plein ou des contrats précaires. En décembre, il y avait un peu plus de 5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, dont 800 000 âgés de plus de 50 ans. Le taux de chômage des seniors est plus faible que celui du reste de la population active, mais quand un senior perd son emploi, c'est plus difficile d'en trouver pour lui un autre. La réforme des retraites vise, dit le gouvernement, à redonner toute leur place aux seniors dans le monde du travail. Le niveau d'emploi des 60-64 ans en France est à un niveau très bas, 33% contre 46% dans la zone euro.
Merci beaucoup Marie Guerrier. Un TGV sur trois seulement aujourd'hui encore, Gare de l'Est à Paris, au lendemain du sabotage, cet incendie volontaire sur des câbles électriques. Vous savez que la SNCF a porté plainte, que le parquet de Meaux s'est saisi du dossier. On fera le point sur l'enquête en cours, ce que l'on sait de cet acte de malveillance et puis sur les soupçons qui pèsent désormais sur les syndicats, bien que ceux-ci s'en défendent. Le point complet après le journal.
Après les amendes, les factures de cantine ou les impôts, ce sont désormais les loyers que vous pouvez régler au bureau de tabac.
5 millions de factures publiques ont déjà été acquittées chez les buralistes depuis 2 ans et vous le disiez, l'éventail s'élargit avec les loyers. Arnaud Touche, 4 bailleurs sociaux proposent depuis ce matin à leurs locataires de venir régler le prix de leur logement au comptoir. C'est le cas notamment à Paris.
Oui, comme ici au Beau Drugstore, dans le 15e arrondissement.
Je pense déjà que ça fait partie de l'ADN de mon métier.
Cyril, le propriétaire du bureau de tabac, propose ce service depuis ce matin.
Je suis dans le 15e, il y a énormément de logements sociaux. Potentiellement, des gens qui peuvent avoir besoin de ce type de service.
150 000 foyers peuvent désormais régler leur loyer dans 3000 points de vente dans toute la France. Et pour cela, ils doivent télécharger l'application Nirio et se munir d'un smartphone, comme le détaille Raphaël Boitbol de la Française des Jeux.
Vous n'avez plus qu'à scanner la facture grâce à cette application, venir dans votre point de vente, montrer sa pièce d'identité, payé et tout ça n'aura pris que 30 secondes au total.
Ce service est soit payant, soit gratuit selon les bailleurs, mais surtout, les locataires peuvent payer leur loyer en liquide et même en plusieurs fois avant la date limite de paiement, comme l'explique Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes.
Avec des paiements qui peuvent être fractionnés sur le reste à charge du loyer. Donc, une vraie volonté d'avoir cette relation de service auprès des populations et surtout, grâce à notre maillage, sur tous les territoires.
Et d'ici la fin de l'année, il sera même possible de régler ses factures de téléphone et d'électricité.
Arnaud Touche pour RTL.
Les buralistes chez qui vous pouvez par ailleurs trouver les tirelires des pièces jaunes.
Tirelire en carton de retour cette année après avoir disparu pendant le Covid. Brigitte Macron s'en félicitait ce matin sur RTL. La première dame qui a profité de son passage sur l'antenne pour demander à ce que le harcèlement scolaire soit davantage puni et que les victimes n'aient pas à subir une double peine.
J'étais encore avec une maman d'une enfant qui avait été harcelée. Elle a dû changer son enfant d'école. Mais c'est le monde à l'envers. Pourquoi est-ce que c'est la personne harcelée qui doit partir? C'est pareil pour les femmes qui subissent des violences. Pourquoi sont les femmes qui subissent des violences qui ne peuvent pas rentrer au foyer? Il y a vraiment un sujet. Et moi, je pense qu'il faut aussi regarder qu'est-ce qu'on fait avec les harceleurs et avec les plateformes. Mais là, il s'agit aussi, c'est un sujet éminemment politique. Il faut qu'enfin, ils fassent ce qu'ils disent qu'ils vont faire sur les mineurs. Ce qui est et qu'ils ne font pas.
On sent que ça vous tient à cœur. Oui. Ça vous agace, ça?
Ah, beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. C'est totalement destructeur. Comment voulez-vous qu'un enfant et un ado se construisent avec tout ce qu'il entend, tout ce qu'on dit de lui? Et au bout d'un moment, c'est un sentiment de culpabilité et de honte qu'ils arrivent à générer. Et ça reste. Et ça mène au pire.
Brigitte Macron ce matin sur RTL. Un entretien à retrouver en intégralité sur notre site rtl.fr. Un mot de hand, puisque les Bleus disputent ce soir les quarts de finale du championnat du monde. Ce sera à 20h30 face à l'Allemagne. La météo, on vous retrouve Peggy Broche comme promis. Bon, chaque jour suffit sa peine.
Oui, ben voilà, on va dire
ça. Elle se renouvelle.
Mais si, chaque jour suffit sa peine.
On va dire ça comme ça.
C'est pas de moi, Pascal.
C'est bien. C'est
mais
bien.
Ça pourrait.
J'ai pas forcément toujours de fulgurance pareille. Allez-y, Peggy, pardon.
Ça reste gris et froid, Céline, un peu comme la veille. On a beaucoup de grisailles sur l'ensemble du pays. Là où il y en a moins, c'est entre les Pyrénées et l'extrême sud-est, avec un ciel voilé et toujours beaucoup de vent. Sauf sur les Alpes frontalières, où là, ça reste gris aussi et encore quelques chutes de neige. Attention, je rappelle que le risque d'avalanche est fort, hein. Il a bien neigé ces derniers temps. Peut-être quelques éclaircies également du côté du Jura cet après-midi, ou encore sur la pointe sud de Bretonne ou la pointe du Cotentin. Et toujours un ciel bien gris du côté de la Corse, mais sans averse cet après-midi et avec du vent. Les températures, toujours hivernales. 2 degrés à Clermont-Ferrand, 3 à Paris, 4 à Dijon et Toulouse, 5 à Limoges, 7 à Cherbourg, 10 à Perpignan, 11 à Montpellier, jusqu'à quand même 14 degrés à Nice.
Merci Peggy.
Sabotage, oui, mais qui? On va poser la question à Guillaume Chiez, mais également à Arnaud Touche, qui ne peuvent pas répondre précisément à cette question, bien sûr. Mais on va avancer sur cette enquête. À tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Moi, je suis mobilisé à l'Assemblée pour soutenir toutes celles et ceux qui luttent contre cette réforme des retraites, quelles que soient les modalités d'action, mais pas la dégradation du bien public et pas des modalités comme ça qui, au final, pénalisent aussi les collègues qui doivent passer des heures à réparer ces installations.
Thomas Porte, député de Seine-Saint-Denis, ancien cheminot qui était ce matin sur RTL et qui réagissait au sabotage, à cet incendie volontaire sur des câbles électriques qui a paralysé le trafic de la gare du Nord hier à Paris. Pour revenir sur ce dossier, cette enquête en cours, Guillaume Chiez du service police-justice d'RTL, bonjour.
Bonjour.
Et Arnaud Touche, spécialiste transport. Rebonjour Arnaud.
Rebonjour.
D'abord Guillaume, revenons sur l'enquête. On le sait, une plainte a été déposée dès hier par la SNCF, le parquet de Meaux saisi. Qu'est-ce que les enquêteurs ont pu établir à ce stade sur les faits?
Alors d'abord, pour se rendre sur les voies, le ou les incendiaires ont dû franchir un portillon d'accès. Portillon dont la serrure était ouverte sans aucune trace d'effraction, donc possiblement par une personne qui avait une clé d'accès. Ensuite, il y a eu deux incendies dans des endroits complexes. Pour le premier, il a fallu déplacer deux panneaux en béton pour accéder au coffret qui abrite les câbles électriques. Idem pour le second coffret, situé lui en dessous des voies de circulation des trains. Enfin, précision importante, aucun vol n'a été constaté sur place.
Et j'ai dit gare du Nord, on parle évidemment de la gare de l'Est, toutes mes excuses. Est-ce qu'on peut espérer un dénouement rapide, Guillaume?
Ça c'est compliqué parce que les enquêteurs eux-mêmes ne sont pas franchement optimistes. D'abord, il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance sur les lieux mêmes des deux incendies.
J'entends ça depuis ce matin, c'est étonnant qu'il n'y ait pas de caméra. Je me suis dit, est-ce que volontairement on ne met pas de caméra précisément dans ces endroits-là?
Avant, mais pas volontairement. Pas les moyens de tout équiper en caméra de vidéosurveillance.
Oui, mais quelque chose d'aussi stratégique, ça m'a interpellé.
C'est vrai. Et en fait, il y a à peu près 1500 nœuds ferroviaires en France. C'est des sites qui sont effectivement sensibles. Mais la SNCF ne peut pas mettre... Alors, il y a des clôtures et il y a des barrières, mais on ne peut pas mettre des caméras partout. Alors, il n'y a pas de caméras, mais en revanche, il y a des caméras autour. La PJ a saisi les bandes de caméras de Vers-sur-Marne et des alentours. Et même s'il y a peu de monde dans cette zone à 1h10 du matin, ça reste un travail de fourmi. Travail de fourmi également sur les prélèvements effectués hier sur place. Une chose est sûre, en tout cas, celui ou ceux qui ont fait ça connaissaient parfaitement la zone. Pour les enquêteurs, ça ne peut être qu'un employé ou un ex-employé de la SNCF ou bien une personne qui travaille pour un sous-traitant.
Guillaume, ce sabotage intervient, on le sait, alors que les cheminots se mobilisent contre la réforme des retraites. Vous l'avez dit, c'est certainement quelqu'un qui connaît bien le site. Alors, certains pourraient être tentés d'en faire un lien avec la mobilisation contre la réforme gouvernementale. Pourtant, Arnaud, les syndicats, eux, s'en défendent. Hein.
Oui, ils s'en défendent et tous ceux que j'ai eu au téléphone hier m'ont dit clairement non, ce n'est pas nous. Alors, d'autres ne veulent pas commenter cette action non plus. Et d'autres expliquent que le sabotage ne fait pas partie des modes d'action. La grève et la mobilisation, oui, bien sûr, mais pas le sabotage. Il ne faut pas casser un outil de travail, c'est ce qu'on m'a répété effectivement hier au téléphone. Je vous propose aussi d'écouter Roger Dillenziger, il est ancien syndicaliste de l'UNSA, il était l'invité d'RTL Petit Matin. qu'on écoutera évidemment tout à l'heure pour Roger Dillenzinger, mais il expliquait en quelque sorte que finalement, comme l'expliquait Guillaume tout à l'heure, c'est forcément quelqu'un qui connaissait les lieux, qui est venu ici. Mais on peut aussi, je crois qu'on l'a, et on l'a en régie, c'est parti.
Moi je me prémunirais bien, j'attendrai les résultats d'enquête avant de voir qui était derrière, mais effectivement c'est, j'ai envie de dire, très très inquiétant, voire totalement irresponsable. Alors effectivement, on peut se poser la question, qui est derrière ?
Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit le fait d'agents de la SNCF ?
Dans le contexte actuel, on peut de toute façon pas l'exclure. Ça serait une erreur de l'exclure que ça a été fait par des gens qui connaissent bien autant l'endroit que les installations.
Ce qui paraît évident, on sait que c'est quelqu'un qui connaît évidemment.
Ben voilà, qu'il soit syndiqué ou non, ça on n'aura pas la réponse, mais c'est difficile d'imaginer que ce ne soit pas un agent. Oui. De la SNCF, pardonnez-moi de le dire.
Ou un sous-traitant,
c'est pas. Ou un sous-traitant, mais quelqu'un qui a travaillé manifestement là-dessus. Oui. C'est ça que je veux dire.
Oui. D'autant plus qu'il y a eu un précédent. Je suis allé regarder dans les archives. Alors, c'était le 5 décembre 2019. C'est pas une date au hasard. La ligne TGV Paris-Marseille avait dû être fermée car des câbles de signalisation avaient été incendiés dans la nuit. C'était dans la Drôme. Là aussi, des plaques de béton avaient dû être déplacées à l'époque. Et le préfet dénonçait également un sabotage. La date n'est pas au hasard. C'était le 5 décembre 2019. On était également lors d'une grande journée d'action contre les retraites. Malheureusement, on a vu avec le service police-justice, on ne sait pas malheureusement si quelqu'un avait pu être interpellé après. Mais effectivement, là, c'était un cas pratiquement similaire. Hein. Pour le coup, c'était en pleine nuit, un incendie avec des câbles de signalisation dans le cadre d'une journée de grève. On n'a pas pu faire le lien entre quelqu'un de syndiqué, en tout cas, mais cette action n'a pas été revendiquée non plus.
Merci beaucoup à tous les deux, Guillaume Chiez, Arnaud Touche. On suivra évidemment l'avancée de cette enquête au fil du temps. Et puis si jamais il y a dénouement, vous serez les premiers à le savoir. Merci beaucoup.
Les Césars dans une seconde, c'était ce matin. Et il y a un film qui est bien placé, qui s'appelle L'Innocent, qui est un excellent film. C'était un des coups de cœur de Stéphane Boutsock. Donc j'imagine que Stéphane doit être satisfait de ses nominations. A tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
Et c'est toujours un moment qu'on attend avec impatience. La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Le moment qu'on attend avec impatience, ce sont les Césars.
Alors, il va falloir patienter encore un petit peu parce que la 48e cérémonie aura lieu le 24 février. Mais on connaît depuis ce matin les nommés et vous venez nous en parler, Stéphane Boutsock. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Avec quatre films qui sortent du lot. Hein.
Alors, on commence en effet par les plus nommés. Avec 11 nominations, c'est le film L'Innocent de Louis Garrel qui est en tête, suivi par La Nuit du 12, formidable thriller qui est sorti l'été dernier de Dominique Moll, 10 nominations. Et ensuite, on a avec 9 le film Pacifiction, ça on va en reparler parce que c'est 53 000 entrées, donc il n'y a pas grand monde parmi tous celles et ceux qui nous écoutent qui l'ont vu. Donc 9 nominations pour ce film et 9 nominations aussi, ça je suis ravi, pour le film de Cédric Clapiche encore, qui a été pour le coup un des gros succès français de l'année. 1 400 000 entrées presque. Alors
ça, c'est des bons films.
Ça, c'est des bons films.
C'est un très bon film que vous aviez aimé.
Absolument. Et L'Innocent, parlons-en, parce qu'en effet, L'Innocent, ça a été la très belle surprise française de cet automne. Film plutôt d'automne à la base, puisque Louis Garrel, voilà, c'est pas non plus un acteur réalisateur grand public, sauf que 700 000 personnes l'ont vu à un moment où le cinéma allait quand même moyen, donc je trouve que c'est très très bien et ça récompense ce travail. Même chose pour La Nuit du 12, qui est sorti en plein cœur de l'été, les chiffres étaient vraiment pas bons, 500 000 entrées, c'est aussi un beau succès, et franchement, je pense que ces deux-là, en effet, devraient très largement se partager les récompenses. Ensuite, si on descend un petit peu dans le nombre de nominations, en tout cas, on trouve Les Amandiers, le film de Valeria Bruni-Tedeschi, cité à 7 reprises, tout comme Novembre, le film de Cédric Jiménez avec Jean Dujardin, qui écope lui aussi de 7 nominations. Et là, c'est un des plus gros succès de l'année, avec 2 400 000 entrées.
Les acteurs, les actrices.
Alors, on va commencer par les dames. Fanny Ardant, nommée pour Les Jeunes Amants, Juliette Binoche pour Ouistreham, Laure Calamy pour À plein temps, Virginie Efira pour Revoir Paris et Adèle Exarchopoulos pour Rien à foutre. C'est le titre du film, je le précise.
Merci.
Belle affiche féminine. Je pense que la favorite, c'est Virginie Efira. D'abord parce que c'est sa 5e nomination. Elle l'a jamais eue. Et franchement, le rôle qu'elle tient dans Revoir Paris, qui est un film qui parle du traumatisme post-attentat, est vraiment épatant. Fanny Ardant l'a déjà eu, Juliette Binoche évidemment aussi, alors qu'elle a mis, on se souvient d'elle, dans Antoinette dans les Cévennes, elle a été sacrée il n'y a pas si longtemps, c'était 2021. Chez les garçons, sont nommés Jean Dujardin pour Novembre, Louis Garrel pour L'Innocent, Vincent McCain pour un film là aussi assez peu vu qui s'appelle Chronique d'une liaison passagère, Benoît Magimel pour Pacifiction, Magimel l'a eu l'an dernier, donc bon, logiquement, ça ne devrait pas être pour lui. Et puis Denis Ménochet, nommé pour le film de François Ozon, Peter Van Kant. Moi, là, comme ça, à froid, je serais tenté de vous dire j'aimerais beaucoup que Dujardin l'ait. D'abord parce qu'il ne l'a jamais eu, c'est sa quatrième nomination. Rappelez-vous que l'année de The Artist, c'est Omar Sy qui l'avait eu pour Intouchable. Mais Louis Garrel, qui est quand même le grand favori de la soirée, pourrait quand même faire le grand chelem.
Il y a des oubliés dans ces nommés
Honnêtement, si on se place sur le strict principe de une nomination récompense le travail d'un acteur ou d'une comédienne, qu'Elsa Zilberstein soit pas nommée pour Simone, Le Voyage du siècle, qui a une nomination, c'est presque le camouflet, nomination des costumes quand
vous
même.
Dites Simone, on rappelle, c'est sur le film sur Simone Veil.
Le film sur Simone Veil, oui, pardon.
C'est incroyable. Hein.
Alors, on pense qu'on veut du film. Petit A, c'est un gros succès.
Un immense succès.
Et petit B, la performance de Zilberstein dans le film, elle est dingue.
Et qu'on aime ou pas le film. Ça veut dire que les gens n'aiment pas Elsa Zilberstein dans le milieu?
Alors, voilà, faut rappeler ce que vous dites, Pascal. D'abord, à la base, les 4700 membres de l'Académie qui ont voté là, c'est la profession, hein, c'est pas le public. Attention, il y a toujours une nuance importante au César. Mais oui, je pense que film populaire, film qui a été moyennement en effet accueilli dans le milieu du cinéma, peut-être que certains ont trouvé qu'elle en faisait trop, Olivier Dahan, quel réalisateur, a pas non plus forcément voilà, une image colossale. Mais ça, pour le coup, c'est un oubli assez dingue, quand même. On peut aussi citer...
Cécile de France est oubliée, ça me fait La Passagère, c'est un...
Sauf que si on commence,
elle est exceptionnelle dans...
Il y a 300 films français sortis.
Non, mais elle est exceptionnelle dans la...
Oui, oui, bien sûr. Mais celles qui sont là sont pas mauvaises du tout. Hein. Et je vous rappelle qu'on en retient 5 quand même, au final.
Mais Cécile de France est quand même exceptionnelle dans La Passagère.
Vous n'êtes pas votant,
non,
vous auriez
non,
voté.
Non, non. Voilà, voilà. Qui vote d'ailleurs, les 4500? Qui vote?
Alors, il y a des acteurs, des producteurs, des attachés
vous
de presse, des techniciens. Non, moi, je ne suis pas votant.
Des journalistes ne votent pas?
On peut. Moi, je me... honnêtement, puisqu'on en parle, je me demande si on peut être juge des parties. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un petit doute par rapport à ça, mais pourquoi pas? Il faut se faire parrainer pour voter. Il faut avoir deux parrains ou marraines.
Mais c'est vrai que Simone ne soit pas présente donne encore une image du cinéma refermé sur lui-même et qui n'aime pas le public ou en tout cas les choix du public.
Alors ça, on pondère avec le cas de Novembre, hein, qui a autant marché que Simone et qui, je le rappelle, est nommé 7 fois et notamment meilleur réalisateur pour Jiménez et meilleur acteur pour Dujardin.
Est-ce qu'on peut parler de la cérémonie en tant que telle, Stéphane? Bon, les Césars, chaque année, c'est une ou des polémiques. Est-ce qu'on va y échapper en février?
Je me dis, sur le papier, on est en pleine réforme des retraites, il y a un climat qui est quand même un petit peu lourd, ça m'étonnerait qu'on passe complètement à côté. La volonté affichée de l'Académie cette année, mais ça on nous dit ça depuis 3-4 ans, c'est de retrouver un sens de la fête et du partage avec le public, et pas que ce soit l'entre-soi avec des vannes sur le métier et des sous-entendus, et en effet des polémiques ou des scandales. Donc, ce qui veut dire que cette année, il n'y aura pas de maître ou de maîtresse de cérémonie en tant que telle. Ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, on va faire tourner 9 personnalités, et elles sont très variées.
Personne ne veut y aller. Peut-être.
Jérôme Commandeur, Ahmed Silla, Léa Drucker, Leïla Bekti, Jamel Debbouze, Emmanuel DeVos, Alex Lutz, Raphaël Personnaz et Yehaïdara comme présentateur et présentatrice. Je trouve que c'est pas plutôt mal, pas mal en termes de génération et de style.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de coups à prendre quand tu es animateur tout seul. Et les dernières années, c'est ça que je voulais dire. Pour les maîtres de cérémonie, ils étaient courageux parce que parfois, ils étaient fortement attaqués.
Ben, soit, en effet, on la jouait sobrement et on était un passeur de plat dans le sens noble du terme, ou soit, en effet, on voulait rajouter beaucoup d'humour, de petites piques, etc. Et on l'a vu les dernières années, ça passait plus. Ça. En tous les cas, les Césars à la télé, c'est une cérémonie qui est de moins en moins regardée, comme les Oscars d'ailleurs. L'enjeu cette année, c'est justement de ramener un public
sur
Canal. Plus populaire. Ça sera sur Canal Plus le 24 février.
Et c'est toujours très bien organisé, évidemment, et mis en scène par Canal.
Évidemment.
Évidemment. Il est 12h58.
On rappelle, non?
On rappelle quand même.
On rappelle quand même pour les sous-titres. Parce que là, vous voyez, on était en train de faire
dans
ce qu'on reproche parfois au cinéma.
On rappelle que j'appartiens un peu au groupe Canal,
si
je voulais dire.
Soyons
un
transparents.
Non, mais c'est vrai. Maxime Saada était l'autre jour, d'ailleurs, à ce micro d'RTL.
Il était formidable, c'est ça?
Non, mais il faut défendre le cinéma
français. Il faut défendre le cinéma français, il faut l'aider, il faut aller en salle voir des films, et là-dessus, on sera tous d'accord. Il faut écouter Stéphane Boutsock. 12h58, on pourra parler des Césars, tiens, avec les auditeurs. Voilà une bonne idée. Comment vous vivez les Césars, si Stéphane d'ailleurs veut rester avec nous, pourquoi pas? À tout de suite.
Je vois.
RTL Midi.